VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, la grève générale entamée hier a été largement suivie.
En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema décrète l'amnistie totale pour tous les prisonniers politiques et opposants.
Au Malawi, le vice-président Saulos Chilima va se présenter contre son patron, le président Peter Mutharika, en mai 2019.
Au Royaume-Uni, deux Britanniques ont été exposés au même poison utilisé contre un ex-espion russe il y a 4 mois.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, la grève générale lancée par les principaux syndicats pour protester contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivie hier. Le point avec Irénée Herman Oumbo.
À Conakry, toutes les gares routières sont restées fermées. Le manque de taxis et de minibus a affecté l'administration qui, de fait, était complètement paralysée. La grande majorité des banques étaient fermées, tout comme les commerces et les grands marchés. Dans le reste du pays, notamment dans les grandes villes comme Kendia, Manou, Labé, Nzérékoré et Boké, le mouvement était largement suivi. Le gouvernement guinéen a procédé le week-end dernier à une hausse des prix des produits pétroliers. La décision a été vivement critiquée par les syndicats et la société civile qui demandent au gouvernement de renoncer à cette augmentation qui va aussi toucher des produits de grande consommation. Selon les syndicats guinéens, dans un contexte marqué par une pauvreté aiguë des populations, rien ne saurait justifier cette mesure.
Et nous reviendrons sur cette grève en Guinée en seconde partie de cette édition.
Au Mali, la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle est maintenant connue. Ils sont 24, dont une seule femme, pour le premier tour prévu pour le 29 juillet prochain. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Ce n'était pas une assistance des grands jours à la Cour constitutionnelle. Pour cette proclamation définitive, la Cour a simplement analysé les requêtes et plaintes avant de rendre publique la liste définitive. Manassa Danugo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
1. Ibrahim Boubacar Keïta. 2. Aliou Diallo. 3. Choguel Kokala Maïga. 4. Haruna Sangaré. 5. Ousseini Amiens Bindo. 6. Mamadou Oumar Sidibé. 7. Soumaïla Cissé. 8. Dramane Dembélé. 9. Moussa Sinko Koulibaly. 10. 7 Mohamed Abdoulaye Souad Dimourbo Diara, 11 Niakoro Ye Samake, 12 Mourbo Kone, 13 Daba Diawara, 14 Mamadou Diara, 15 Mohamed Ali Batili, 16 Mamadou Traoré, 17 Mourbo Sidibé, 18 Amadou Ntouré, 19 Mourbo Kadioke, 20 Amadou Kane, 21 Khalifa Sanogo, 22 Madame Djenaba Ndiaye, 23 Omar Mariko, 24 Moundara Tall.
24 candidats, c'est le même nombre qu'en 2002. Le record reste la présidentielle de 2002. Avec 28 candidats. En 92, il n'y avait que 9 candidats contre 2 en 97 et 8 en 2007. À signaler que la campagne pour le premier tour de la présidentielle commence ce samedi 7 juillet. Elle dure 21 jours. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, la télévision publique a annoncé hier l'ouverture, mardi à Diffa, du procès de plusieurs centaines de militants présumés du groupe islamiste Boko Haram. Ils sont jugés notamment pour les charges d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Les premiers procès de membres présumés de Boko Haram s'étaient tenus en mars 2017 à Niamey, la capitale.
Et puis, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema a décidé mercredi d'accorder une amnistie totale à tous les prisonniers politiques et à tous les opposants condamnés ou interdits d'activité selon un décret lu à la télévision nationale. Le point avec Jean-Roger Bion.
Cette mesure spectaculaire dans un pays dirigé d'une main de fer par le président Obiang depuis 1979 survient à moins de 2 semaines d'un dialogue national qu'il a lui-même convoqué. Le décret présidentiel précise que ce dialogue annoncé en juin se tiendra du 16 au 21 juillet. L'amnistie doit permettre une large participation de tous les acteurs politiques à ce dialogue entre le gouvernement et les partis politiques légalisés, acteurs politiques de l'intérieur et de la diaspora, société civile et confessions religieuses selon le président. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition de l'intérieur et de la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. Les dirigeants du principal parti d'opposition équato-guinéen, Citoyens pour l'innovation, ont toutefois affirmé ne pas avoir été conviés au dialogue national. Citoyens pour l'innovation a été dissous fin février en raison de la menace qu'il constitue selon les autorités pour la sûreté de l'État à la suite de la condamnation de 21 militants à plus de 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Ce parti réclame l'annulation de sa dissolution depuis.
En République démocratique du Congo, le collectif des femmes de la société civile, la coalition Rien sans les femmes, RSF, l'UCOFEM, le groupe Ukingo Watetezi et différentes plateformes du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga ont organisé une marche de la colère et de soutien contre les cas de viol assortis de viols dont les femmes sont victimes à Lubumbashi. Le point avec notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Ces femmes membres des ONG sont venues des quatre coins de la ville en solidarité avec toutes les femmes victimes de vols et viols à Lubumbashi. Sur 148 cas de vols armés enregistrés, plus de 50 cas sont accompagnés des viols avec violence dans la ville de Lubumbashi de janvier à juillet 2018. La plupart des victimes sont de jeunes filles, mineures et femmes mariées. Un acte de sauvagerie selon les manifestants qui ont voulu interpeller et rappeler à l'autorité provinciale sa mission et dont le rôle de protéger ses administrés et leurs biens. Au gouvernorat, ces femmes en colère ont déposé le mémorandum auprès du vice-gouverneur de province, l'ingénieur Jean Kalinga. Ce dernier a déploré ces différents cas en promettant l'implication personnelle du gouverneur et du comité provincial de sécurité et des autorités nationales dans la traque de tous les auteurs, en appelant la population à la vigilance et à collaborer en vue de mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats qu'il a qualifiés d'ennemis de la paix sociale et la quiétude publique. Aucun incident n'a été signalé dans cette marche à la grande satisfaction des organisatrices et des autorités locales. Narval Mabila, Lubumbashi, The Wafrique.
Au Malawi, le vice-président Saulo Chilima, en rupture de banc avec le président Peter Mutharika, dont il dénonce la corruption, a annoncé mercredi soir qu'il défierait son patron lors de la présidentielle de mai 2019. Le président Mutharika est soupçonné par le bureau anticorruption d'avoir touché des pots de vin d'une entreprise qui avait remporté un marché public. Réagissant à cette enquête, il a démenti de telles allégations, mais l'opposition ne cesse de réclamer sa démission.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Grande-Bretagne, une réunion d'urgence du cabinet ce jeudi autour de l'affaire du couple retrouvé dans un état critique après avoir été exposé au même agent innervant qui avait empoisonné 4 mois plus tôt un ex-espion russe et sa fille. Les deux Britanniques avaient été retrouvés samedi dans un état critique à Amesbury, un village du sud-ouest de l'Angleterre situé à une quinzaine de kilomètres de Salisbury, la ville où l'ex-espion russe et sa fille, Sergueï et Yulia Skripal, avaient été empoisonnés en mars.
En Syrie, reprise hier soir, des bombardements contre les secteurs encore tenus par les rebelles dans le sud, et ce après l'annonce par les insurgés d'un échec des négociations avec la Russie, alliée du régime qui cherche à les convaincre de rendre leurs armes. Selon une source de l'opposition proche des pourparlers, la délégation russe avait prévenu mardi les rebelles que mercredi serait le dernier jour pour les négociations et qu'ils devraient donner leur réponse finale.
Des affrontements entre les forces de l'ordre israéliennes et des manifestants ont eu lieu mercredi en Cisjordanie occupée, dans le village bédouin de Khan al-Ahmar, dont Israël a annoncé la destruction imminente, selon l'AFP. Des équipements lourds, dont un bulldozer, ont été déployés mercredi autour de la localité, ce qui a entraîné des jets de pierres de la part de manifestants, puis des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes.
Le président iranien Hassan Rouhani a insisté mercredi à Vienne sur sa volonté de sauvegarder l'accord historique sur le programme nucléaire de son pays, aujourd'hui gravement menacé. Il est en Europe pour s'assurer des partenariats permettant de contrer le retour des sanctions américaines. Cette visite est cependant assombrie par la récente arrestation d'un diplomate de l'ambassade d'Iran en poste dans la capitale autrichienne, soupçonné d'être impliqué dans un projet d'attentat.
En Pologne, le conflit autour de la Cour suprême polonaise a gagné hier en intensité. Lech Wałęsa, l'ancien héros de la lutte anticommuniste, est venu apporter son soutien à la présidente de la Cour qui refuse de prendre sa retraite conformément à la réforme menée par les conservateurs du parti majoritaire. Fin de ce journal sur VOA Afrique. L'heure maintenant de passer au sport et bien sûr à la Coupe du Monde. C'est avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous et bienvenue au Journal du Mondial. Nous sommes à la veille des deux premiers matchs des quarts de finale qui commencent demain avec la France de Kylian Mbappé opposée à l'Uruguay à 14h temps universel. Tout l'enjeu de l'avant-match pour les Français est de savoir si l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, touché à un mollet, pourra jouer. La Fédération uruguayenne a posté hier sur les réseaux sociaux des photos de l'entraînement de la Céleste où ne figurait pas l'attaquant du PSG, blessé lors du 8e de finale contre le Portugal. Lundi, sa fédération a affirmé qu'il souffre d'un œdème sans déchirure, mais sans en dire plus. Cavani est redoutable et l'un des milieux de terrain français qui a été son coéquipier au PSG, Blaise Matuidi, le sait mieux que quiconque. Écoutons-le.
Peut-être qu'ils changeront leur système de jeu. Si Edison est amené à être absent, c'est sûr que c'est différent. Ça sera peut-être un handicap pour eux devant, mais dans leur façon de jouer, de défendre, ça ne changera pas trop, je pense. Même si c'est vrai qu'Edison fait beaucoup d'efforts, on le sait défensivement.
Cette rencontre France-Uruguay a inspiré le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Le premier quart de finale qui oppose vendredi soir la France à l'Uruguay est le deuxième grand affrontement Europe-Amérique entre anciens champions du monde après l'Argentine-France de samedi. Mais ici, la France victorieuse en huitième de finale a une toute autre équation à résoudre. Contre l'Argentine, le schéma tactique des Sud-Américains convenait aux dispositions naturelles d'une équipe de France puissamment armée pour contenir au sol, comme dans les airs, une formation argentine au jeu trop latéral et obligée de conserver le ballon ou d'attaquer pour cacher sa fragilité défensive. La vélocité des attaquants français rompus pour la contre-attaque lui a été fatale. Par contre, l'Uruguay, qui a une posture plutôt défensive, aime subir en s'appuyant sur une défense articulée autour des Madrilènes, Godwin et Jiménez, dont l'axe central est peut-être le plus solide et le plus polyvalent au monde. Il alimente par des remontées ou des longues passes millimétrées un des duos d'attaque les plus redoutables avec le Barcelonais Suarez et le Parisien Cavani. Dans ce cas, la France devra faire le jeu. Or, les espaces seront bouchés. Un dispositif qui ramène les tricolores à la problématique qui les a fait déjouer en début de compétition. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le salut des Bleus peut venir de l'indisponibilité de l'attaquant uruguayen Cavani, puni par sa récente blessure. On le voit, la perspective d'une place dans le carré d'as nous réserve un combat acharné dans ce quart de finale entre l'Uruguay et la France. À vendredi.
Le vainqueur du match sera opposé à celui de la rencontre entre le Brésil et la Belgique, toujours demain, à 18h, temps universel. Côté brésilien, les latéraux Marcelo et Douglas Costa ont effectué mardi leur retour à l'entraînement. Pour l'ancien international de la Seleção, Ronaldo, le Brésil est prêt pour le sacre final. Écoutons-le.
Le Brésil está pronto, com certeza. Talvez a equipe mais pronta e que mais mereça ganhar nessa Copa.
Le Brésil est prêt, bien sûr. C'est peut-être l'équipe la mieux préparée et celle qui mérite le plus de gagner cette Coupe. Je crois que la façon dont ils jouent, la patience dont ils font preuve dans les matchs, la façon dont ils remportent les victoires et surtout n'encaissent pas de but. Le Brésil est prêt, malgré qu'il soit très critiqué dans notre pays.
Et si la Seleção veut remporter le sacre final, il faudra d'abord passer par-dessus les Diables Rouges belges et le défenseur central de la Belgique, Vincent Kompany, ne l'entend pas de cette oreille.
Juste de manière objective, individuellement, leurs défenseurs sont solides, ils gagnent leur duel, ils n'ont pas peur du 1 contre 1. En plus, devant, ils sont capables de faire l'action individuelle. Individuel qui débloque même un groupe collectif solide et ça fait en sorte qu'ils ont toujours une arme en fait qu'ils peuvent utiliser. Moi, dans un scénario idéal, on prend un très bon résultat contre le Brésil, mais en plus de ça, on est capable de vraiment développer le jeu qui nous a rendu fort jusqu'à présent. Et constamment, on est en amélioration, en fait. Donc, faut s'attendre à ce que contre le Brésil, on soit capable aussi encore de franchir un palier. Moi, j'espère en tout cas.
Samedi, on aura les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h temps universel, à Samara et Russie-Croatie à Sochi à 18h. Avec ses deux perles, Luka Modric et Ivan Rakitic, la Croatie faisait partie des gros clients annoncés. Mais personne ou presque n'avait misé un rouble sur la Russie, 70e au classement FIFA. La Sbornaïa s'est trouvé deux héros, son gardien Igor Akinfeev qui a éliminé l'Espagne en 8e de finale et son sélectionneur Stanislav Cherchersov, ancien gardien international pragmatique dans son approche. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce Journal du Mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions du gouvernement et reconduit le premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour former une nouvelle équipe, le Rassemblement des Oufouettistes ou RDH. Où RHDP désigne la coalition RDR-PDCI au pouvoir. Mais le futur parti unifié voulu par M. Ouattara suscite des divisions. Pour une analyse, Idriss Fall a joint à Abidjan Julien Fernand Gauze, président du réseau des organisations de la société civile ivoirienne.
Ce remaniement avait été déjà ébruité, annoncé sous plusieurs formes et même la date avait été plus ou moins annoncée. Donc on n'est pas surpris. Nous verrons à l'épreuve des faits ce qu'il y aura de nouveau. Si cela va annoncer une rupture définitive, brutale, chirurgicale entre les deux locomotives du RHDP que sont le RDR et le PDCI, nous savons tous qu'il y a quelques soucis. Le RDR appelle de toutes ses forces et avec insistance à la formation du parti unifié, qui serait donc une espèce de fusion-absorption entre toutes les composantes du RHDP. Le PDCI fait entendre qu'il n'est pas prêt à cette fusion-absorption, en tout cas pas avant les élections de 2020. Tout cela donne un discours qui est cousu de fil blanc.
C'est dans ce contexte que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumi, membre du bureau politique du PDCI, crée une dissidence. Ce n'est pas par hasard alors?
À l'entendre, ce n'est pas une dissidence qu'il a créée. D'après le discours qu'il a lu devant l'Assemblée réunie de son mouvement, il dit avoir créé un courant de pensée à l'intérieur du PDCI, aux côtés des présidents Dédié et Alassane, pour pérenniser l'œuvre de Houphouët-Boigny. Voilà son discours. Il y a un problème. Quelqu'un qui est membre d'un bureau politique, qui est ministre sur quoi au nom de ce parti, et qui crée un courant auquel ne participe pas la direction officielle de son parti, et s'agit de préparer le lit à une espèce de cassure à l'intérieur du parti. D'autant plus que le journal PDCI a annoncé ce matin à sa une que le président Dédié aurait dit que c'est un non-événement. Ce type de courant ne serait pas autorisé à l'intérieur du parti.
On a l'impression que c'est le début des grande manœuvre en vue des élections présidentielles de 2020. Mais Alassane Ouattara, oui, est-ce que ses intentions sont claires ou pas?
Ses intentions ne sont pas encore clairement exprimées. Mais les non-dits indiquent qu'il y a des intentions claires. Le président dit qu'il est possible, puisque rien, d'après son propos, ne l'empêche d'être candidat. S'il le veut, il pourrait.
Le PDCI ne va jamais accepter de se faire harakiri, parce que déjà des voix célèbres pour dire que nous devons avoir aussi notre candidat.
Voilà, donc c'est là où le bas blesse. Il n'y avait du RHDP au commencement que le RDR et le PDC. Les autres sont venus s'ajouter pour agrandir la famille. Quand on parlait de RHDP, les Ivoiriens qui ont l'humour très cocasse disaient RH deux pieds. Avec donc cette fois-ci une espèce de hiatus, une espèce de contradiction, les Ivoiriens sont devenus coutumiers de cette scène où le président de la République appelle son aîné, le président Henri Konan Bédié, comme étant le baobab qu'il consulte au pied duquel il va prendre un certain nombre de conseils avant de faire sa gouvernance. Or, si il y a cassure entre les deux, cela veut dire que c'est la fin d'une époque et d'une vision de l'opposition.
C'était Julien Fernand Gauze, président du réseau des organisations de la société civile ivoirienne.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Retour sur la grève générale de 72 heures déclenchée hier en Guinée pour protester contre le réajustement des prix du carburant à la pompe. Le mouvement syndical qui demande au gouvernement de revenir sur l'ancien prix appelle les travailleurs à observer le mot d'ordre et menace de lancer une grève illimitée s'il n'obtient pas satisfaction. Le point avec Zakaria Camara à Conakry.
Les hôpitaux, l'aéroport international de Conakry, les entreprises et les usines à feu, l'électricité de Guinée et la société des eaux de Guinée ne sont pas concernés par la grève. Par ailleurs, l'intercentrale CNTG-USTG appelle les travailleurs des secteurs publics, privés, mixtes et informels à rester à la maison pour 3 jours à compter de ce mercredi. Plusieurs boutiques n'ont pas ouvert à Conakry. Des jeunes mécontents ont perturbé la circulation dans la banlieue de la capitale. Dans les cafés, l'augmentation du prix du carburant reste le sujet du jour.
Il n'y a pas eu de sensibilisation. Deuxièmement, ça n'a aucune commune mesure avec l'inflation, avec le niveau de vie du Guinéen. C'est là où il y a le malheur. Donc nous, on n'est pas contents du tout.
S'il veut, l'essence n'a qu'à être venu à 30 000. Mais si notre revenu peut nous suffire, ça ne dérange pas. Mais aujourd'hui, même si l'essence est venue à 100 francs, si on n'arrive pas à manger, on va dire de diminuer encore.
Je crois que c'est bon. Parce que c'est le gouvernement qui connaît ce qui passe en Guinée. On est derrière le gouvernement.
Tous les autres pays, les gouvernements travaillent pour les populations. Mais je vois en Guinée, les gouvernements travaillent contre les populations.
Le litre du carburant passe à 10 000 francs guinéens avec une hausse de 2 000 francs guinéens. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue pour discuter des mesures d'accompagnement. Mais pour le mouvement syndical, il faut revenir au prix initial de 8 000 francs guinéens avant toute négociation. Réaction des Guinéens à Conakry.
Nous, les populations, nous sommes derrière les sociétés civiles parce que ce que le gouvernement a fait, c'est anormal. Il y a beaucoup de choses là où le gouvernement peut gagner l'argent pour payer le fonctionnaire.
Je le soutiens. Mais ceux qui font le découragement, ils vont commencer. Après, on parle de négociations. Et toutes ces négociations qui viennent, c'est à la faveur du gouvernement. Ce qui reste clair, pour toute négociation, il faut qu'on revienne sur le prix.
Elle a parfaitement raison, la société civile a raison, le syndicat a raison, parce que ce sont ces deux entités qui protègent la population à la base.
Dans une communication, le gouvernement guinéen dit être obligé de réduire son train de vie et surtout ses subventions onéreuses. La subvention du carburant était la plus lourde, a précisé le ministre guinéen des hydrocarbures dans une conférence de presse mardi à Conakry. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, le rôle de la communauté internationale et notamment des organisations d'aide humanitaire est de plus en plus contesté par une partie de la population, y compris les élus du peuple. John Linden, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa, est allé à la rencontre d'Alain Lubamba Wa Lubamba, vice-président de la commission chargée des relations extérieures.
Au sein de l'Assemblée nationale congolaise, il y a une des commissions dont le rôle est incontournable dans les relations que la RDC entretient avec la communauté internationale et ses partenaires étrangers. C'est bien la commission chargée des relations extérieures. Alain Lubamba Lubamba, vice-président de cette commission.
Notre commission a pour rôle principalement d'examiner toutes les conventions internationales et accords internationaux que le gouvernement négocie et il nous les soumette pour avoir l'autorisation de le ratifier ou pas.
Le 13 avril dernier, alors qu'une conférence des donateurs censée venir en aide à la RDC se tient à Genève en Suisse, Kinshasa décide de boycotter cette initiative. À l'époque des faits, Léonard Tshé-Okitundu, ministre des Affaires étrangères, dénonce et même rejette les arguments de la communauté internationale et des humanitaires qui pointent du doigt la situation critique que connaîtrait la RDC. L'honorable Alain Lubamba revient sur cet épisode.
D'abord, la première information que nos députés avons eue auprès du gouvernement est que dans l'organisation de cette rencontre internationale, la RDC ou le gouvernement de la RDC n'était pas associé. Et comme vous le savez, il n'est pas indiqué qu'on parle de vous sans que vous ne soyez associé. Et cela a été pris comme un manque de considération pour le Congo, pour le Congolais et pour le gouvernement congolais.
L'honorable Alain Lubamba va même plus loin dans sa réprobation.
Du point de vue fond, c'est vrai que le pays est dans une situation où il nécessite l'appui et l'accompagnement de ce partenaire, mais dans une démarche de considération, pas de mépris. Et aussi, lorsque nous évaluons tout ce que la République démocratique du Congo a pu bénéficier depuis quelques années avec la guerre d'abord de l'Afdel, les déplacés des guerres et même l'éruption volcanique autrefois à Goma, quand vous évaluez tout ce qui a été mis dans l'humanitaire par rapport aux résultats et vous vous rendrez compte que c'est pratiquement de l'argent jeté dans l'eau.
Pour beaucoup de personnes ici, comme pour le vice-président de la commission chargée des affaires extérieures, une autre approche plus efficace est possible. Alain Lubamba ou Lubamba.
Aujourd'hui, si réellement la communauté internationale ou les partenaires du Congo veulent conséquemment accompagner notre pays, ils doivent penser non pas aux actions humanitaires, non pas à l'urgence, mais aux actions de développement. et aussi à promouvoir l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui sera durable, c'est ce qui pourra contribuer au développement du pays et à donner un souffle réel dans la vie économique du pays.
John Linden, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les Américains ont célébré hier, 4 juillet, le 242e anniversaire de leur indépendance envers la Grande-Bretagne. Cette fête, bien entendu, occupe une place de choix dans leur cœur. Partout dans le pays, des citoyens se sont réunis pour des pique-niques, des défilés et des feux d'artifice. Mais à New York, une manifestante a escaladé la Statue de la Liberté, forçant l'évacuation de la Liberty Island. Elle protestait contre la séparation des enfants de leurs parents, entrés illégalement aux États-Unis à la frontière avec le Mexique, bien que le président Donald Trump ait mis fin par décret à cette pratique. Cet incident, il faut le dire, est symptomatique des divisions de ces dernières années au sein de la société américaine. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Rien ne rassemble autant les Américains si ce ne sont pas les feux d'artifice, et plus particulièrement en cette date du 4 juillet. Occasion pour le pays non seulement de reprendre son souffle collectif, mais aussi de méditer sur les valeurs démocratiques qui le caractérisent. Toutes ces idées se sont transformées en actions dans les rues, y compris les récentes protestations contre la réforme du système de l'immigration. Désormais, démocrates et républicains se regardent en chien de faïence pour ce qui concerne le remplacement du juge Anthony Kennedy à la Cour suprême. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren précise.
Les gens sont en colère. Donald Trump n'est pas un roi. Personne n'accède à la Cour suprême sans passer par le Sénat des États-Unis.
Les partisans de Trump ne sont pas restés silencieux. Ces militants scandent également la détermination d'un président qui s'est engagé à Washington à restaurer les valeurs américaines.
Nous retrouvons notre fierté. Nous retrouvons nos emplois. Nous retrouvons notre richesse pour les citoyens de ce grand pays. Nous renouons avec nos beaux rêves américains.
Des divergences politiques ont aiguisé la présidence de Trump, y compris les enquêtes en cours pour élucider ses éventuelles relations avec la Russie. Pendant que certains approuvent et attendent impatiemment les résultats de ces enquêtes, d'autres, notamment les républicains comme Trey Gowdy, les considèrent comme une source de division.
Quel que soit ce que vous obtenez, ça va toujours mal tourner parce que ce pays se fragmente.
Les divisions politiques dans le pays sont réelles et inquiètent parfois, selon l'historien Alan Lichtman.
Les gens se sentent un peu comme si on les chassait de l'Amérique simplement à cause de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leurs convictions politiques. Et vraiment, nous n'avions plus connu ça depuis un certain temps dans l'Amérique moderne.
Pour la plupart des Américains, célébrer le 4 juillet, c'est mettre la politique de côté pour honorer la démocratie. Mais comment le faire dans un contexte où les divisions politiques fragilisent au quotidien l'unité nationale, autrefois soutenue par une démocratie dynamique? La question reste encore posée.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum se penche cette semaine sur l'implication politique des femmes en Afrique. Depuis le départ cette année des présidents Ellen Johnson Sirleaf du Liberia et Dlamini Zuma de l'île Maurice, plus aucune femme n'est à la tête d'un pays africain. L'ascension des femmes africaines au pouvoir, mythe ou réalité? Les quotas imposés dans différents pays ont-ils changé la donne? Pourquoi l'écart persiste-t-il entre les hommes et les femmes? Quelles sont les difficultés et obstacles du pouvoir africain au féminin? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.